Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zelani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. La menace terroriste est-elle une vue de l'esprit ou est-elle bien réelle? Les JO de Paris sont-ils menacés? Les services de renseignement s'inquiètent en tout cas. On va en parler avec l'expert en sécurité Driss Ait Youssef. Pour les célébrations de Pâques, le gouvernement renforce en tout cas la surveillance aux abords des églises. Êtes-vous inquiet? Vous pouvez témoigner au 01 80 20 39 21. Devant le tribunal de Lille, aujourd'hui, des centaines de personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, étaient rassemblées pour soutenir un cégétiste accusé d'apologie du terrorisme. Dans ce journal, le hameau du Haut-Vernet bouclait toute la journée pour tenter de faire avancer l'enquête sur le petit Émile, disparu il y a près de 9 mois. Nous ferons le point avec le commandant de gendarmerie, Marc Roland. Et puis c'est le moment ou jamais de parler chocolat avec les fêtes de Pâques à 19h45. Nous serons en direct avec une chocolatière bordelaise. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
Et alors la météo, ça donne quoi?
Alors, pluvieuse du sud-ouest au nord-est demain et puis nouvel épisode venteux en vue, surtout hein, dans le centre-est cette fois. Prudence dans le Rhône et la Loire, une alerte orange est enclenchée, valable entre minuit et 16h demain et on fait le point à la fin du journal.
À tout à l'heure. Europe 1. L'attentat de Moscou a ravivé les craintes d'attentats dans l'Hexagone. D'ailleurs, selon le dernier sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, les Français évaluent le risque d'une attaque terroriste à 7 sur une échelle qui va jusqu'à 10. Alors, à l'approche du week-end de Pâques, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à tous les préfets de renforcer la sécurité aux abords des églises. Jean-Baptiste Marty, quelles seront les mesures mises en place ?
Eh bien, autour de chaque église, des policiers et gendarmes, mais aussi des militaires sentinelles. Tous doivent prendre contact avec les curés des paroisses avant chaque cérémonie. On parle notamment de la messe du jeudi saint ce soir, le vendredi saint demain, puis la vigile pascale samedi soir et enfin la fête de Pâques. L'objectif, avoir une estimation du nombre de fidèles attendus pour que le dispositif des forces de l'ordre soit adapté. Juste avant les célébrations, plusieurs consignes, le contrôle systématique des sacs, les contrôles d'identité ou encore la surveillance des véhicules garés à proximité des églises. Dans certaines villes, consigne sera même passée au maire d'interdire la circulation. Gérald Darmanin demande également aux policiers et gendarmes d'être en lien avec les procureurs pour accélérer les procédures en cas d'incident. Alors, cette demande spéciale du ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Cultes, intervient quelques jours après le déclenchement de l'alerte urgence attentat, une menace terroriste plus que jamais présente à quelques mois des Jeux Olympiques.
Et selon les informations d'Europe 1, Gérald Darmanin s'est rendu dans les locaux de la DGSI. Aujourd'hui, le contre-terrorisme voulait lui faire part des craintes, notamment sur la cérémonie d'ouverture des JO prévue sur la Seine. Aujourd'hui, une simulation d'attaque terroriste a été organisée dans un stade de Rodez. L'enjeu étant pour les forces de l'ordre de neutraliser deux terroristes dans la foule. Sachez aussi que plusieurs pays annoncent qu'ils vont envoyer des soldats pour renforcer la sécurité des JO. Donc vous le voyez, nous sommes vraiment au cœur de l'actualité avec cette menace terroriste et on va y revenir juste après le journal avec l'expert en questions de sécurité Driss Ait Youssef. Vos questions, vos réactions au 01 80 20 39 21. Dans ce contexte de guerre contre le terrorisme et aussi de guerre contre la désinformation, le ministère des Armées alerte sur un faux site qui propose de s'engager en Ukraine, site internet depuis désactivé, qui paraissait très officiel, Wilfried de Villers.
Oui, il reprenait la charte graphique des sites gouvernementaux, avec notamment le logo du ministère des Armées sur la première page, une photo d'Emmanuel Macron et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et cet encart précisant que l'armée de terre française recrute et forme 200 000 soldats pour combattre en Ukraine. Le lien du site a largement été relayé sur X, et c'est sur le réseau social, vous le disiez Hélène, que le ministère des Armées a lancé l'alerte, assurant, je cite, qu'il s'agit d'un faux site gouvernemental relayé par des comptes malveillants pour une campagne de désinformation. Si le ministère ne le précise pas, plusieurs spécialistes estiment que l'opération serait pilotée par des intérêts russes ou pro-russes. Nicolas Tenzer est enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques.
La propagande russe joue, après les hypothèses qu'Emmanuel Macron a émises sur l'envoi de troupes en Ukraine, pour essayer d'accroître la crainte des Français, jouer sur la peur d'une mobilisation, on va vous prendre vos enfants, on va les envoyer au front, ceci étant évidemment un faux, c'est vraiment pas l'intention du président de rétablir la conscription.
Voilà plusieurs semaines que Paris dénonce publiquement et méthodiquement toute tentative de déstabilisation et d'ingérence numérique russe ciblant la France. Des opérations qui, selon Paris, visent à saper le soutien à la cause ukrainienne.
Des informations toujours à Moscou, le Kremlin continue à privilégier la piste ukrainienne après l'attentat de vendredi dernier qui a fait au moins 143 morts, une attaque revendiquée par l'État islamique. Mais la Russie assure que les auteurs ont des liens avec les nationalistes ukrainiens, Antoine Bienvaux.
Oui, selon les enquêteurs russes, les terroristes de Moscou auraient reçu une importante somme d'argent de la part des nationalistes ukrainiens. Des informations qui auraient été obtenues après l'interrogatoire des suspects et la vérification de leurs transactions financières selon les autorités russes. Le Kremlin annonce d'ailleurs avoir arrêté un nouveau suspect susceptible d'avoir joué un rôle dans ce supposé financement. Mais aucune preuve concrète n'a cependant été fournie par Moscou qui accuse toujours l'Ukraine malgré la revendication de l'État islamique. Ces nouvelles accusations ont vivement fait réagir à Washington. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby n'a pas hésité à qualifier les Russes de marchands de fumier cet après-midi. Mon oncle avait coutume de dire que les meilleurs marchands de fumier transportent souvent leurs échantillons dans leur bouche. Eh bien, les responsables russes semblent être d'assez bons marchands de fumier, a-t-il asséné. Il y a deux jours, le patron du FSB avait de nouveau accusé l'Ukraine d'être derrière l'attentat de vendredi dernier. Kiev continue de son côté à nier toute implication, dénonçant une manipulation malhonnête de Moscou.
Antoine Bienvaux.
19h-20h.
Hélène Zélani.
Gabriel Attal a lancé un pavé dans la mare en annonçant hier soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui réduirait la durée d'indemnisation des chômeurs, levée de boucliers des syndicats. Et côté politique, Marine Le Pen pour le RN estime qu'il s'agit de faire les poches des Français pour renflouer les comptes de l'État. Pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon parle de cynisme et de cruauté. Gabriel Attal, lui, contre-attaque. Le Premier ministre, en déplacement à Rambouillet dans les Yvelines, leur a répondu à tous les deux à sa manière. Jacques Serret.
Gabriel Attal met dans le même sac le Rassemblement National et la France Insoumise.
Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, sur les questions de travail et de social, c'est un seul et même parti. Extrême droite, extrême gauche, même combat contre le travail, une forme de parti du tout à l'occasion.
Une stratégie assumée pour tenter de décrédibiliser le RN. Quand Marine Le Pen dit voir en la réforme de l'assurance chômage une escroquerie, le Premier ministre réplique.
Le fait que partout en France, les entreprises, les commerçants, les artisans, les PME vous disent qu'ils cherchent à recruter, qu'ils ont des offres d'emploi pour se développer, et que de l'autre côté on reste avec plus de 7% de chômage, pour eux c'est pas un problème. Bah nous on assume de dire qu'il faut inciter davantage à la reprise d'emploi. Pour Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, le fait qu'il y ait des gens qui restent 10 ans au RSA sans être suffisamment bien accompagné pour retrouver un emploi, c'est normal. Bah nous, on dit que c'est pas normal.
Une manière de dénoncer l'ambiguïté du RN qui cherche à convaincre les entrepreneurs et d'instiller le doute chez les électeurs de droite tentés de voter Bardella aux européennes.
Jacques Serret, cet après-midi, le gouvernement réunissait des parlementaires à Bercy pour tenter de trouver de nouvelles sources d'économies. 10 milliards sont déjà actés pour cette année, mais ça ne suffira pas. Et puis pour faire des économies, il y a la lutte anti-fraude. Selon le bilan annuel de l'assurance maladie, 50% de fraudes supplémentaires ont été détectées et stoppées. Cela pour une valeur de 466 millions d'euros. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, des centaines de personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, venus soutenir un syndicaliste CGT accusé d'apologie d'actes de terrorisme.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, des centaines de personnes cet après-midi à Lille pour soutenir le responsable CGT dans le Nord qui était jugé pour apologie du terrorisme. Parmi elles, des visages bien connus, Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet. Dans un tract de soutien aux Palestiniens publié trois jours après l'attaque du 7 octobre contre Israël, il avait légitimé le pogrom perpétré par le Hamas. Reportage sur ce rassemblement de soutien aux allures de meeting, Maximilien Carlier.
Barnum, Tonnel et Drapeau, un mini-village CGT installé devant le tribunal. 300 militants, plus des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis est venu pour soutenir le syndicaliste dans le Nord.
Ceux qui ont les fins de mois comme différents bien remplis, je trouve que Jean-Paul a tous les vices. Ceux qui ont les fins de mois qui sonnent creux, eux pensent que ce que fait Jean-Paul, c'est justice.
Son tract mérite-t-il la prison, s'interroge l'ancien candidat à la présidentielle. À l'audience, Jean-Paul Delescaut, jean, veste beige à capuche, se défend, prône la paix, lui qui est jugé en correctionnel pour apologie du terrorisme. Dans un tract de soutien aux Palestiniens, il justifie en une phrase les attaques menées par le Hamas le 7 octobre dernier. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Philippe Lefebvre, avocat de la partie civile, il Il représente la communauté juive.
Jean-Paul de Lescot me semble coupable de s'être laissé aller un peu trop et d'avoir utilisé des termes excessifs. D'ailleurs, il en convient.
Et le syndicaliste CGT risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Maximilien Carlier à Lille. Tant de questions, si peu de réponses depuis la disparition du petit Émile, 2 ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence. Près de 9 mois plus tard, une reconstitution de la dernière chance était organisée toute la journée dans le hameau du Haut-Vernay. Une mise en situation précisément, Stéphane Burgat, vous êtes sur place, avec l'espoir de faire avancer l'enquête.
Oui, toujours aucune garde à vue, aucune mise en examen, mais les 30 gendarmes qui travaillent sur ce dossier ont multiplié les recherches, les perquisitions et s'efforcent de tous ces éléments recueillis ces derniers mois qu'ils confrontent les versions, les agendas de chacun. 17 personnes convoquées ce matin sur les hauteurs du Vernet, le hameau totalement verrouillé. La famille du petit Émile, mais aussi des voisins, des témoins qui affirment avoir aperçu le garçon seul dans une rue du hameau ce 8 juillet. Tous sont amenés à revivre cette journée et l'espoir d'une avancée de l'enquête pour le maire de la commune, Vincent Balic.
Tout le monde dans la commune attend de savoir ce qui s'est passé, comment Émile a disparu dans un hameau de montagne, soirée d'été, alors qu'il y avait des personnes dans le hameau. C'est incroyable, c'est même un mystère. Et donc on espère que les investigations qui sont pratiquées aujourd'hui permettront de soit d'éliminer les hypothèses, soit peut-être de découvrir ce qui s'est passé.
Alors cette mise en situation qui vient de se terminer, les magistrats sont repartis à l'instant, mais la zone reste bouclée jusqu'à demain. Et on ne connaît pas pour l'heure les conclusions de cette journée de confrontation.
Stéphane Burgat dans les Alpes de Haute-Provence pour Europe 1. Alors que cherchent vraiment les enquêteurs? Ont-ils des chances de résoudre cette affaire? On va y revenir vers 19h40 avec le capitaine de gendarmerie, Marc Roland. On vient de l'apprendre, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, suspend la messagerie dans tous les espaces numériques de travail, les ENT, des établissements scolaires français. Et cela après les menaces d'attentats contre des collèges et des lycées ces derniers jours. Ça a soufflé très fort à cause de la tempête Nelson, 107 km/h dans les Deux-Sèvres, 108 km/h en Vendée. Dans ce département, une mini-tornade, et pour être précis, on dit un phénomène tourbillonnaire, a touché l'Île-Dieu. Une 60aine de maisons ont été endommagées. Geoffrey Branger.
Vers 20h30 hier soir, les habitants de l'Île-Dieu ont eu une belle frayeur. Une tornade a frappé le nord de l'île, un phénomène d'une intensité inédite de seulement quelques secondes. La maire, Carole Charuot.
On est habitué aux tempêtes, hein, mais pas de cet ordre-là. C'était une sorte d'aspiration, en fait. Quand les tuiles se soulèvent, en fait, c'est un drôle de bruit assez intense, mais ça dure vraiment pas longtemps. C'était vraiment exceptionnel.
Le bilan humain est léger. Une femme a été hospitalisée en urgence relative, mais les dégâts matériels sont, eux, assez importants.
Il y a quand même une 60aine de maisons d'impactées. C'est que matériel, mais enfin, il y a quand même des voitures d'impactées, les arbres qui sont tombés dessus, des rues bloquées forcément, une panne d'électricité. Il y a même eu un bateau qui a été retrouvé de l'autre côté de la route. Ça a été intense, quoi.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont posté des photos ou vidéos de leur jardin dévasté, de leur trampoline retrouvée des dizaines de mètres plus loin ou encore de leur toiture totalement éventrée. La mer l'assure, le pire est passé. Concernant l'Île-Dieu, les liaisons maritimes devraient reprendre dès demain.
Et la météo dans quelques minutes avec Marlène Duret. Autre genre de tornade sur la célèbre place new-yorkaise Times Square. La chanteuse colombienne Shakira a donné un concert surprise devant 40 000 personnes. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs on my body. Concert gratuit annoncé quelques heures plus tôt sur ses réseaux sociaux et c'était pour célébrer la sortie de son nouvel album, le premier depuis 7 ans. Place au nouvel album de Didier Hamon. En vrai, c'est pas tout à fait ça.
Pas encore, en tout cas.
En tout cas, vous nous parlez des marchés financiers et puis de la Bourse de Paris qui, encore une fois, termine sur un record.
Oui, c'est un nouveau record. Alors, c'est un petit record, plus 0,01%, mais ça suffit à battre un nouveau record. 8205 points après un passage à plus de 8250 points ce matin sur le CAC 40. Nouveau sommet historique. Les anticipations de baisse des taux d'intérêt des banques centrales se confirment. Firme à l'horizon sans doute du mois de juin, au rythme du ralentissement de la hausse des prix. Le marché est resté calme, hein, toutefois, avec pas mal d'hésitations, dans la mesure où il y aura un long week-end pascal de 4 jours. La Bourse de Paris est fermée demain, vendredi. Elle sera aussi fermée lundi de Pâques, donc 4 jours de pause. En Europe, c'est très calme pour cette raison. Hein. Francfort, plus 0,1%. Bruxelles, plus 0,3%. Milan est stable. Le CAC 40 gagne 0,01%. 8205 points.
Alors bon week-end prolongé Didier.
Merci beaucoup.
La météo maintenant avec vous Marlène Duret. Pluie et vent au programme avec notamment une alerte orange dans deux départements du centre-est.
Oui voilà, le Rhône et la Loire. À partir de minuit jusqu'à demain après-midi, c'est le vent de sud qui va se renforcer. Ça va souffler fort. Les plus fortes rafales pourront atteindre les 100-110 km à l'heure. Prudent si vous vous trouvez entre Saint-Étienne, la vallée du Gier, Givors, le Lyonnais. Hein, ça va souffler fort aussi d'ailleurs sur le Massif central et les Pyrénées. Côté précipitations, deux passages pluvieux au programme cette nuit. On en a un premier qui va rentrer par les Pays de la Loire et la Vendée, qui va circuler en direction du bassin parisien. Et puis un second sur lequel on va s'attarder un petit peu plus puisqu'on va le retrouver demain de l'Aquitaine à la région Grand Est en passant par le Limousin, le nord de l'Auvergne, le Berry et la Bourgogne. C'est une perturbation qui va onduler toute la journée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger beaucoup. Elle aura même tendance à revenir un petit peu sur ses pas et elle devrait donner de bons cumuls dans le sud Aquitaine. De part et d'autre, de cette grande diagonale grise et pluvieuse, eh bien ce sera un temps un peu variable, hein, avec parfois des averses pour la partie nord-ouest, parfois même orage sur les côtes sud-bretonnes. Et puis à l'avant de cette zone pluvieuse et venteuse, eh bien de belles éclaircies vont se développer entre le midi toulousain, le pourtour méditerranéen, la Provence. Les Cévennes font bande à part. Pas mal de pluie. D'ailleurs, on va surveiller ces jours prochains. Et puis je termine par ce risque d'avalanche toujours en cours, toujours très élevé dans les Alpes du Sud et les Pyrénées.
C'est bien parce que grâce à vous, on apprend que les perturbations ondulent. On va parler températures. Hein, elles ont tendance à remonter demain.
Et oui, dès le matin grâce aux nuages et au vent de sud. Et puis l'après-midi, on va gagner quelques degrés par rapport à aujourd'hui, sauf dans le sud-ouest. Les maximales baisseront un petit peu. Alors on prévoit 11 degrés à Limoges et Biarritz, 12 à Brest demain, 13 à Rouen et La Rochelle, 14 à Bordeaux, 15 à Lille et Paris, 16 à Strasbourg, 17 degrés à Dijon, 18 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 21 à Lyon, Avignon, Marseille, 22 à Grenoble et 25 à Perpignan.
Merci beaucoup Marlène. 19h19 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h et on compte sur vous dans un instant. On parle de la menace terroriste, notamment sur les JO. À tout de suite.
Europe 1 soir, 19h20.
Hélène Zelani.
19h22 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Faut-il avoir peur des attentats? Vaste question. Selon le nouveau sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, la crainte d'un nouvel attentat en France dans les semaines ou les mois à venir est relativement forte. 7 sur une échelle qui va jusqu'à 10. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur était dans les locaux de la DGSI cet après-midi. Selon les informations d'Europe 1, le contre-terrorisme voulait l'informer des risques qui planent sur notre pays, surtout depuis l'attentat de la semaine dernière à Moscou. Bonsoir Driss Aït Youssef.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes docteur en droit public, expert des questions de sécurité. La DGSI aurait des craintes tout particulièrement sur la cérémonie d'ouverture des Jeux. Est-ce qu'elles sont étayées ces craintes ?
Oui, à la fois elles sont étayées de par les informations dont elles disposent à la fois croisées avec les services de renseignement extérieur et ce que une cérémonie d'ouverture peut avoir comme impact sur le plan international ou en termes de communication.
Sécuriser la Seine et ses abords, hein, sachant qu'on attend plus de 300 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture, c'est une mission impossible ?
C'est une mission qui est très compliquée. En réalité, c'est un peu plus de 300 000 personnes, c'est-à-dire un peu plus de 200 000 personnes sur les hauteurs et 100 000 sur les rives. Et donc, on voit bien qu'effectivement, sur ce parcours qui va allonger la Seine avec à peu près 180 embarcations, on voit bien qu'il y a cette difficulté à sécuriser tout le parcours. Donc, il y a encore des études de faisabilité en cours, mais d'une certaine manière, on sent qu'il y a des inquiétudes, y compris des délégations étrangères qui font part de leur scepticisme, voire de leur inquiétude, justement, quant à cette inauguration, à cette cérémonie d'ouverture qui, initialement, devait prévoir près de 2 millions de personnes.
Oui, donc la jauge a été très considérablement réduite. Les autorités, à votre connaissance, ont peur de quoi précisément ?
Au fait, les Jeux Olympiques, c'est plusieurs risques en réalité. Vous avez le risque terroriste, il est très présent. Et quand on parle de risque terroriste, ça peut être à la fois avec un drone, donc la lutte anti-drone, on a le ministère, en tout cas l'armée de l'air avec la police qui sont extrêmement mobilisés avec des systèmes finalement assez performants. Vous avez à peu près les systèmes, enfin les kamikazes qui sont là et qui sont identifiés. Vous avez d'autres risques liés à la délinquance du quotidien. Vous avez des risques cyber, vous avez des risques NRBC, nucléaire, bactériologique, chimique ou radioactif. Et puis vous avez aussi le risque sanitaire qu'il ne faut pas non plus exclure. Donc vous avez un ensemble de risques qui est pris en considération, en compte par la puissance publique pour appréhender les risques sur les îlots.
Si jamais il fallait basculer sur un plan B, il consisterait en quoi ? Est-ce que c'est réduire encore la jauge, si tant est que c'est possible ? Est-ce que c'est carrément annuler la cérémonie sur la scène ?
Non, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plutôt l'annulation. Il n'y aura pas de cérémonie avec 50 000 personnes. Ça ne présente absolument aucun intérêt dans la mesure où les forces de sécurité qui seront déployées, notamment pour escorter effectivement ces délégations internationales, seront extrêmement importantes. Pour 5 000 personnes, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt en réalité, quoi. Si c'est pour fanfaronner sur la scène tout seul, enfin, la réalité, c'est que ça ne présente pas d'intérêt. Donc, ça sera soit, effectivement, avec cette jauge actuelle, c'est-à-dire à peu près 326 000 personnes, ou a priori rien du tout. Il y a des réflexions en cours.
Ça veut dire qu'elle pourrait être purement et simplement annulée, hein, quand on vous entend.
Reporter dans un autre
lieu plus facile à sécuriser ?
Un lieu plus clos, par exemple un stade, par exemple. Mais c'est vrai qu'en tant qu'expert, on a plutôt tendance à dire qu'à force de diminuer cette jauge, à un moment donné, il n'en a plus d'intérêt. Donc on ne va pas encore faire une jauge à 50 000 ou à 100 000 personnes, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, y compris sur le plan organisationnel. Les effectifs de police que vous avez déployés sont à peu près identiques à 300 000 personnes. Voilà, donc là, les délégations, il faudra les sécuriser de la même manière. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est soit effectivement ce plan A qui est maintenu en l'état, c'est-à-dire avec 326 000 touristes, téléspectateurs, ou alors probablement rien du tout. Voilà, il est encore peut-être trop tôt pour le dire, il y a encore 4 mois. Il y a des évaluations qui sont actuellement en cours par la DGSU via l'UCLAT. Et puis vous avez aussi la DGSE qui évalue aussi les risques, notamment qui pourraient venir de l'extérieur. Et en fonction de ça, bah, il y aura peut-être... ça dépendra aussi des délégations étrangères. Mmh. Vous pouvez parfaitement avoir des délégations étrangères qui peuvent renoncer et finalement à participer à cette cérémonie d'ouverture, compte tenu de la menace qui pèse pas simplement sur la France, mais sur l'Europe d'une manière générale et puis dans d'autres pays.
Oui, d'autant qu'on a appris que plusieurs pays comptaient envoyer des soldats pour renforcer la sécurité des JO. Ça n'est pas très très rassurant.
Oui, alors pas très rassurant, mais c'est quelque chose finalement d'assez classique. Nous-mêmes, nous avons envoyé quelques militaires lors de la Coupe du Monde, je crois, à Doha. Donc c'est un dispositif finalement qu'on peut retrouver. Là, on est sur deux missions essentielles parce qu'on a un besoin criant, notamment en matière de des équipes cynophiles, détection d'explosifs et de sécurisation. Donc on n'est pas sur des missions de police judiciaire ou de palpation de sécurité. Ce seraient des militaires qui viendraient compenser le dispositif Sentinelle. On a 18 000 militaires du dispositif qui seront déployés, donc ça viendrait très certainement en complément. On ne sait pas combien il y aura de militaires polonais, il n'y aura pas que des militaires polonais, mais peut-être d'autres militaires. Je pense que ça peut contribuer d'une certaine manière à donner de la force à cet événement international.
Donc c'est plutôt positif, il ne faut pas le voir comme le signe qu'il y a un danger encore plus important, c'est plutôt rassurant alors, selon vous.
Je trouve que c'est plutôt une belle solidarité à dire, bon, y a un événement qui est particulier, c'est un événement assez exceptionnel, les Jeux Olympiques, et dans un contexte très particulier, et que d'annuler ces événements, ça serait évidemment une défaite, donc c'est plutôt d'appeler à la solidarité pour le coup européenne et des pays qui viendraient effectivement renforcer le dispositif. On ne parle pas de 400 000 militaires, attention, hein, donc on parle vraiment de quelques centaines, peut-être quelques milliers de militaires qui viendraient ici ou là renforcer les dispositifs déjà existants.
Driss Aitiousef, expert des questions de sécurité, vous restez avec nous, on va marquer une pause, on va se retrouver juste après, on prendra aussi en ligne notre auditeur Frédéric qui veut réagir. À tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
À l'approche du week-end de Pâques, Gérald Darmanin demande au préfet de sécuriser les lieux de culte face à un niveau très élevé de menaces terroristes. Il demande une présence physique des forces de l'ordre systématiquement devant toutes les églises et les temples, en particulier pendant les offices de demain et de ce week-end. La justice tente de percer le mystère de la disparition du petit Émile près de 9 mois après le début de l'enquête. Sa famille, des voisins ainsi que des témoins ont été réunis sur les lieux du drame pour reconstituer le moment où le garçonnet de 2 ans et demi a été aperçu pour la dernière fois au hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, une mise en situation qui est maintenant terminée. On va en parler dans quelques minutes. 6 jours après l'attentat de Moscou, la Russie accuse encore l'Ukraine. Washington dénonce une propagande absurde. Moscou affirme avoir la preuve que les auteurs de l'attentat qui a fait 143 morts près de la capitale russe entretenaient des liens avec des nationalistes ukrainiens. Le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat est seul responsable, selon les États-Unis. Et puis le Rhône et la Loire, à leur tour placés en vigilance orange pour des vents violents, des rafales à plus de 100 km/h attendues cette nuit et demain à cause de la tempête Nelson. En revanche, l'alerte orange est levée pour les 5 départements de la façade atlantique, de la Bretagne à la Charente-Maritime.
19h-20h, Europe 1 Soir.
Et nous sommes toujours en direct avec Driss Ait Youssef, docteur en droit public, expert des questions de sécurité, pour évoquer cette menace terroriste qui pèse sur la France, notamment sur les JO. Et je voudrais qu'on prenne en ligne Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et merci de me prendre à l'antenne.
Mais merci de nous appeler.
Le plus grand plaisir.
Est-ce que vous êtes inquiet, surtout quand vous entendez ce que dit notre expert?
Oui, moi je pense, oui, je dis honnêtement, je suis quand même très inquiet. Et je pense que cette cérémonie d'ouverture, honnêtement, on pourrait s'en passer parce que on sait très bien, on va très mal maîtriser le risque en fin de compte, hein, faut pas se voiler la face. Donc laisser courir le risque d'avoir des morts alors qu'on sait très bien qu'on ne tient pas la situation vraiment en main. Moi, je pense que c'est vraiment une fantaisie dont on pourrait se passer. Hein. Franchement, il y a un caprice derrière ça, moi, que je trouve un petit peu dangereux. Et je vous dire honnêtement, on sait qu'on risque la vie des gens. Alors, bien sûr, dans tous les domaines, mais là, encore plus qu'ailleurs, je pense qu'on pourrait se passer de cette cérémonie. Franchement, c'est vraiment...
Donc vous êtes prêt à renoncer à regarder un moment un peu exceptionnel, hein, parce que des JO à Paris, c'est tous les 100 ans, ouais. Mais ça, vous êtes prêt, vous estimez que la vie humaine est plus importante que
oui,
les images exceptionnelles.
Exceptionnel. On aura ensuite les épreuves. On
oui, bien sûr, bien sûr.
Mais bon, là, si vous voulez, honnêtement, humainement, je dis après tout, bon... C'est pas, on maîtrise pas la situation. Notre démocratie n'est pas armée contre tout ça. Nous,
alors,
si vous voulez, c'est très difficile. Donc, je critique pas. Hein, si vous voulez, on peut pas maintenir, on ne peut pas être sûr de la sécurité. Donc, je condamne personne, malheureusement.
Vous êtes inquiet. On entend votre inquiétude, Frédéric, c'est pour ça que j'aimerais voir la réaction de Driss Ait Youssef. Vous entendez ce que dit Frédéric? Il est très inquiet. Il prône même une pure annulation. Il parle même de caprice, de fantaisie. Est-ce que finalement c'est la seule solution? Et puis ce que ça m'inspire aussi, mais est-ce que la France n'a pas anticipé suffisamment ce risque?
Bah, c'est un peu comme le plan de mobilité. On sait qu'il sera pas au niveau. Le plan de mobilité, c'est le plan de transport. On voit bien qu'on aura des très grosses lacunes, à tel point que on a plutôt conseillé aux Parisiens de plutôt faire du télétravail en province ou peut-être ailleurs. Mais c'est vrai que sur les questions un peu de sécurité, ou en tout cas sur l'initiative, sur l'inauguration, c'est vrai qu'il y a eu peut-être beaucoup d'ambition, mais c'était sans compter sur l'actualité internationale et c'était sans compter sur cette résurgence de menaces terroristes. Après, c'est vrai que cette inauguration, c'est un peu plus de 10 000 athlètes sur, je vous l'ai dit, à peu près 180 embarcations. Sur les 180, vous en avez à peu près 84-85 qui transporteront des athlètes. C'est un dispositif qui est assez important. C'est une décision politique et moi, en tout cas, je la respecte en tant que telle, même si je peux peut-être considérer qu'il y a peut-être un risque par rapport à ça. Mais aussi, la démocratie, c'est aussi d'une certaine manière combattre cette forme un peu de menace, de peur. Après, il appartiendra à l'autorité politique de faire un choix, on s'en avait conscience.
Je vous remercie beaucoup, Driss Ait Youssef, d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, expert des questions de sécurité.
19h-20h, Hélène Zélani.
19h36, on va maintenant revenir sur cette célèbre et mystérieuse affaire, la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a presque 9 mois. Depuis ce matin, une mise en situation a été organisée dans le hameau du Haut-Vernay. Elle vient de se terminer. C'est l'équivalent d'une reconstitution, sauf que là, il n'y a pas de suspect. On en parle avec vous, capitaine Marc Roland. Bonsoir.
Bonsoir à vous, merci pour votre invitation.
Merci d'y répondre. Vous êtes porte-parole de la PNM, Association Professionnelle Nationale de Militaires. 17 personnes ont donc reconstitué le moment où le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet vers 17h15. Est-ce que ça veut dire que les enquêteurs ont de nouvelles informations qu'ils veulent vérifier ?
En tout cas, ce qui apparaît à la lecture du grand public et des sachants, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un acte d'instruction et d'information majeur à la diligence des juges d'instruction qui sont directeurs et pilotes de ce volet pénal avec un transport in situ, des constatations, des convocations à témoins, des visites domiciliaires, tout ça pour illustrer sur place la lecture d'une procédure pénale lourde et écrite.
Mais quel est l'intérêt de ce genre de mise en situation ? On l'a dit, c'était il y a pratiquement 9 mois. Est-ce que c'est pour éliminer éventuellement des hypothèses ?
En tout cas, c'est pour bien comprendre ce qui est écrit, ce qui est formalisé dans une procédure pénale. Et c'est pour bien illustrer l'action des uns et des autres et la rapporter dans un contexte matériel de manière à éviter les interprétations ou les non-dits qu'on pourrait éventuellement tirer de la procédure ou du contexte.
Et on peut imaginer que 9 mois après, tout d'un coup, des témoins, de la famille, aient comme une illumination, que quelque chose leur revienne. C'est possible, ça ?
Tout est possible. Avec la nature humaine, tout est possible. L'humanité a toujours cette part d'étrangeté qui fait que parfois, à des moments donnés, elle peut se révéler diverses et variées. En tout cas, l'idée, c'est de tout tenter pour ne rien oublier et en cela, tout acter en procédure.
Le Haut-Vernay, c'est un tout petit bourg de 25 habitants à 1200 mètres d'altitude. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Comment on peut imaginer, alors vous dites que la nature humaine peut réserver son lot de surprises, mais comment on peut imaginer que dans un contexte comme celui-là, un huis clos comme ça, on puisse tirer de nouveaux éléments d'une journée comme celle qui vient de se dérouler ?
Et vous avez dit le mot exact, cette affaire, je dirais, hors norme, et vous l'avez dit en préambule, concerne une population restreinte, un village presque isolé du restant de la vallée. Effectivement, comment faire ? Eh bien, écoutez, remettre en situation, comprendre les us et les coutumes locales, détecter des profils, comprendre les modes de pensée, les modes de réflexion de ces gens qui, effectivement, détiennent par eux-mêmes, parce qu'ils ont vu, et surtout parce qu'ils n'ont pas vu, une part de la vérité, et peuvent contribuer ainsi à déclencher de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles portes à ouvrir pour investiguer toujours plus.
Qui est-ce qui gère une journée comme celle-là, de mise en situation, puisque c'est le mot qu'il faut employer ? Est-ce que c'est le magistrat tout seul ? Est-ce qu'il est assisté ? Comment ça se passe très concrètement ?
Eh bien écoutez, c'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, il y a le volet en surface, l'intervention massive des gendarmes mobiles de Orange qui viennent pour étanchéifier, sécuriser la zone. Mais il ne faut pas omettre tout ce volet, je dirais, procédural avec les OPJ, les magistrats qui sont en charge et qui mettent en place, qui décident de mettre en place effectivement cette mise en situation, mais également tout le soutien logistique. Qui permet aux investigations de se mener avec, je dirais, sérénité et confort. Et je pense notamment, et c'est très basique, mais ça fait partie de la procédure, ça fait partie du schéma, tout le soutien sanitaire, le soutien alimentaire, le soutien hébergement, les commodités, parce que vous pensez bien que 100-150 personnes sur place, une journée entière, ont des besoins naturels qu'il convient effectivement de répondre.
Il faut y penser,
répondre.
Mais oui.
Et, effectivement, et je rends hommage à ces personnels qu'on ne voit pas, et qui appuie effectivement l'action majeure, celle des enquêteurs, celle des techniciens en identification criminelle qui prennent des photos, qui filment la scène, nos pilotes de drones qui permettent de fixer par le haut les images observées depuis les airs afin de d'aborder le dossier pénal, de l'illustrer toujours par une cartographie et des images qui vont contribuer, je l'espère effectivement, à mieux comprendre ce qui s'est passé.
Ah, donc il y a de nouvelles images qui ont été captées aujourd'hui, même si c'est pas du tout la même météo, le même moment de l'année. On ajoute au dossier de nouvelles images, c'est intéressant.
On peut imaginer qu'on a reproduit la progression de l'enfant et de confronter cette progression de l'enfant avec les différentes étapes où notamment nos deux témoins importants ont vu ce petit garçon à la fois descendre le village et remonter le village. Et tout ça, c'est chronométré, c'est calculé, c'est analysé. En tout cas, on détermine la faisabilité et la véracité de ces témoignages, leur caractère, je dirais, prégnant.
Quelles sont les pistes possibles? Est-ce que, par exemple, la piste de l'accident reste encore envisagée ou elle a été totalement exclue?
On ne n'exclut jamais rien dans une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, c'est un acte d'intelligence où on priorise les hypothèses. La thèse de l'accident reste une hypothèse, même si elle est devenue de plus en plus marginale, elle reste quand même, je dirais, en fond de soute, en fond documentaire, en arrière-pensée, dans la tête des enquêteurs.
Oui, parce qu'il y a eu d'innombrables battues, hein, évidemment, dans ce secteur. On a pu imaginer une chute mortelle, c'est un tout petit garçon, on va parler au présent. Et aucune, bien sûr, de ces battues n'a donné le moindre résultat. Mais vous le dites, malgré tout, ça reste une hypothèse. On a aussi parlé ces derniers jours de la piste du grand-père maternel d'Émile. Et d'ailleurs, il faut souligner que son avocate était présente aujourd'hui, ce qui n'est sans doute pas un hasard. C'est un homme qui avait été placé sous statut de témoin assisté dans une enquête qui date, hein, puisqu'elle date des années 90, pour des violences et des agressions sexuelles présumées dans un établissement scolaire religieux du Pas-de-Calais. Est-ce que cette piste aussi, elle paraît envisageable?
Cette information dont vous nous faites part, effectivement, concerne un dossier qui commence à dater d'il y a presque plus de 30 ans,
oui,
avec une récente implication au titre, implication dans le dossier pénal, bien sûr, au titre du témoin assisté depuis environ 6-7 ans. Cette information, ce renseignement judiciaire était connu des enquêteurs dès le début. Ce volet, je dirais, d'analyse a été exploité et pour l'heure n'abonde en rien le dossier du petit Émile ouvert pour des faits de nature criminelle.
J'aimerais avoir votre conviction personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il est possible? Possible parce que le mot est trop ouvert. Est-ce que vous pensez que ce mystère sera percé?
C'est une question extrêmement grave. En tout cas, les gendarmes locaux, ceux de la SR de Marseille, ceux du groupement du 04, les camarades de Digne, ceux de Barcelonnette, s'engagent précisément pour que ce dossier sensible, grave et surtout complexe ne devienne jamais un cold case.
Comment vous expliquez l'appétit, l'intérêt, je ne sais pas quel mot employer, du grand public pour ce genre d'affaires, pour ces disparitions inexpliquées? Il y a toujours, parce que malheureusement des disparitions, il y en a d'autres, mais celle-là, il y a des cas comme ça qui focalisent l'attention. C'est ce petit garçon si mignon, si jeune, qui disparaît si mystérieusement. Qu'est-ce qui peut expliquer l'intérêt général pour cette histoire?
La ferveur populaire a parfois des résonances que le commun des mortels ne pourrait identifier et expliquer. En tout cas, le petit Émile pourrait être le fils, le petit-fils de tout un chacun. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent à la fois dans la souffrance des parents et des grands-parents avec ce petit enfant à l'image extraordinaire qui circule sur les réseaux, l'innocence de la jeunesse, cette joie de vivre. Et puis soudain, cette question, qu'est-il arrivé? Où est-il?
Merci beaucoup, capitaine Marc Rolland, porte-parole de la PNM, d'avoir été en direct sur Europe 1. Un grand merci. On va marquer une pause, on va se retrouver juste après pour parler du chocolat. C'est normal, juste avant Pâques.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
J'ai trop mangé de chocolat.
Vous avez vu, on vous a fait la totale. total, 19h48, on va parler évidemment du chocolat, vous l'aurez compris. Pâques, c'est l'une des périodes où on en déguste le plus. Les œufs, les cocottes et autres lapins qui se vendent déjà très bien, que ce soit en grande surface ou chez les artisans chocolatiers. Alors justement, on voulait avoir en ligne Asna Ferreira. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice des boutiques Asna Chocolat Grand Cru. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors, je vous présente en quelques mots avec votre mari Vincent. Vous avez ouvert votre première chocolaterie à Bordeaux en 2014, il y a 10 ans. Depuis, une autre a vu le jour à Bordeaux. Une troisième à Arcachon avec en prime un comptoir à mousse au chocolat. C'est fou comme ça me donne faim de rien qu'en en parlant. Alors, Pâques, pour vous, ça représente à peu près quelle proportion de votre chiffre d'affaires ?
Alors, on va dire autour de 25% de chiffre d'affaires.
Donc, un quart.
C'est vrai que le Pâques, c'est une occasion. Oui, tout à fait.
Et vous vous préparez depuis quand pour tous ces, je le disais, ces lapins, ces cocottes, ces œufs ?
On va dire que c'est une préparation de toute l'année. Donc, on va travailler sur un thème. Et ensuite, pour la confection, c'est juste après Noël qu'on commence le travail parce qu'il faut préparer les masses pralinées, puisqu'on garnit nos fritures, il faut préparer les GNVA. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et comme il y a du montage souvent, donc dès que Noël est fini, on commence la préparation de Pâques.
Vous avez des nouveautés cette année pour Pâques que vous pouvez nous présenter ?
Alors, on a juste réitéré le lapin fameux de Tom Klassen. Donc, on a fait un partenariat avec Tom Klassen, qui est un artiste néerlandais très connu, qui fait des animaux dodus. Et donc, notre lapin dodu a eu tellement de succès qu'on le réitère. Et donc, on a proposé aussi un petit mouton pelote qui est fait avec du darknut, un chocolat à la poudre de noisette. Et à l'intérieur, ça fait du chocolat blanc. Donc, c'est vraiment une petite gourmandise.
Alors, Asna Ferreira, on ne vous entend pas très bien. Je vais prendre en ligne une auditrice et on va essayer de vous récupérer de manière un peu plus claire. Astrid nous appelle du Loiret. Bonsoir Astrid. Vous êtes là ? Ah bah si, oui. J'ai plus personne. Vous êtes là Astrid.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, pour vous, Pâques, c'est incontournable de manger et d'offrir du chocolat ?
Alors un peu, c'est vrai que, bon évidemment, c'est à la base c'est une fête catholique, donc on fête le retour des cloches qui ont dit qu'elles sont parties au début du carême, et puis pendant 40 jours on fait des efforts de ne pas en manger, c'est difficile parfois, et donc la joie de Pâques fait que les cloches reviennent toutes contentes et lancent des œufs. Donc pour nous, c'est incontournable avec les enfants. J'en ai encore un de 15 ans qui attend que ça, ce dimanche, de pouvoir les ramasser. Alors c'est vrai que nous, en plus, on fait très attention à ce que ce soit quand même plutôt des œufs plutôt que des lapins ou des poules. Voilà, c'est vrai qu'on fait attention à ce côté-là un peu qui reste encore tout de même.
Pour la tradition.
Je
précise Astrid que vous avez 9 enfants, ça veut dire énormément de chocolat à acheter.
Oui, bon, on est quand même pas fous, hein, on va pas non plus se rendre malade. Mais c'est vrai que ça fait une bonne quantité.
Ah oui,
et
j'imagine.
Puis surtout quand il y a les enfants, puis après que je commence aussi à avoir des petits enfants. Mais oui, c'est une belle fête. Et puis en général, j'essaie d'acheter un chocolat chez le chocolatier parce que c'est vrai que maintenant ça a quand même pas mal augmenté. Et pour voilà marquer le coup. Et je trouve que aussi c'est important d'aider nos
artisans.
Nos artisans, exactement. Bon, je peux pas tout acheter comme ça parce que ça ferait trop. En tout cas, voilà.
Merci Astrid, vous me tendez une perche parce que on est toujours avec Asna Ferreira qui a plusieurs boutiques à Bordeaux qui est chocolatière, je ne sais pas si on artisan chocolatier, je ne sais pas quel est le terme exact. Quand on entend Astrid qui souligne le prix du chocolat, c'était évidemment une des questions que je voulais vous poser parce que ces derniers jours on parle de cette hausse vertigineuse du cacao qui est montée à $1000 la tonne à New York. Depuis janvier, les cours ont plus que doublé. Il y a une hausse de 200% en un an. Est-ce que cette hausse, vous la répercutez déjà ou elle risque de se répercuter dans les mois qui viennent ?
Alors, cette hausse concerne effectivement ce marché boursier. Alors nous, depuis le début, on achète des fèves de cacao en dehors de ce marché boursier, qui sont déjà chères. Donc, enfin, chères, bon, le Salman, c'est déjà parce que le producteur doit vivre aussi de son travail. Donc, nous, on payait déjà 6 à 8 fois le prix du marché. Donc, on ne va pas dire qu'on n'est pas concerné. Bien sûr, on est concerné parce que l'impact va être différent au-delà du prix. Si cette situation dure dans le temps, l'impact va être sur le fait que le producteur va peut-être décider de choisir de passer, au lieu de travailler dans une filière où on va demander de la qualité, il va peut-être dire, donc moi, je vais travailler directement avec des gens qui vont m'acheter ces fêtes de cacao sans exigence de qualité.
On vous entend pas très bien. Est-ce que vous avez une radio allumée près de vous?
Pas du tout.
Ça y est, là tout d'un coup ça va mieux parce que c'est vrai que par moment on vous perdait un petit peu. En plus, le sucre atteint également des prix élevés. Ça rend votre métier compliqué. Est-ce que votre stratégie, si je peux dire, c'est plutôt de répercuter les hausses sur vos prix ou de rogner sur vos marges?
Oui, ça a été rogner sur nos marges depuis déjà 2 ans. Donc, on n'a pas augmenté nos prix. Maintenant, on compte sur nos clients qui sont toujours fidèles. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est que vaut mieux acheter peu et consommer mieux. Et ça, ça vaut pour pas mal de produits.
C'est exactement ce que disait notre auditrice Astrid, hein, qui a 9 enfants, oui. Je le rappelle, qui sont grands pour la plupart maintenant, mais qui disait que bon, elle s'offrait un beau chocolat chez un artisan. Et c'est sûr que pour peut-être les petits œufs, on les achète moins cher. Et ça, c'est important. Vous voulez aussi lancer, j'imagine, cet appel à ce qu'on fasse travailler, à ce qu'on aide les commerçants qui tous les jours dans leur atelier fabriquent du chocolat, font preuve d'inventivité, utilisent des matières de qualité, ça c'est important.
Clairement, c'est important d'aider l'artisan parce qu'il est déjà passionné, il fait travailler les producteurs, les petits producteurs, donc effectivement il faut soutenir l'artisanat.
Je dois aussi souligner que vous avez reçu la consécration ultime dans le monde du chocolat pour votre tablette de chocolat noir bio, Cori Inti, 75% originaire du Pérou. C'est la médaille d'or mondiale International Chocolate Awards. Ça doit vous donner du cœur à l'ouvrage.
Clairement, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de mettre la lumière sur la tribu Achaninka qui travaille cette fête. Cacao, parce que sans leur travail au niveau de la fermentation et du traitement post-récolte, on n'aurait pas pu avoir ce prix.
On vous perd. Est-ce qu'on vous a perdu ou vous êtes toujours là, Asna Ferreira? Vous êtes là.
Mais
on a une liaison malheureusement qui n'est pas excellente. Ce que je me demandais, quand on voit l'augmentation du prix des fèves de cacao qui va se prolonger vraisemblablement, est-ce que vous réfléchissez à élaborer d'autres produits avec moins de cacao?
Pas du tout, ça n'a jamais été ma démarche. Au contraire, nous, on essaie de diminuer le sucre dans tous nos produits. Et ça vaut ce que j'ai dit. Donc, il faut consommer moins aussi chez moi. Donc, non, parce que les premières clientes chez moi, ce sont mes filles. Et donc, je leur propose un produit qui...
Oh là 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 là, c'est pas simple de vous entendre malheureusement, pourtant vous êtes à Bordeaux, vous n'êtes pas au bout du monde, vous n'êtes pas au Pérou, vous n'êtes pas dans une plantation de cacao en Côte d'Ivoire, vous êtes à Bordeaux, mais la discussion est assez difficile. Astrid, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis toujours avec vous.
Vous êtes toujours avec nous. Quand vous entendez ce que nous dit Asna Ferreira, qui se donne beaucoup de mal, hein, pour qui rogne sur ses marges, on se rend peut-être pas compte parce que c'est un produit festif et c'est un plaisir, mais finalement c'est un pan économique important aussi, le chocolat.
Oui, mais c'est ce que je disais. En fait, on en achète un en se disant, c'est vrai, je pense qu'à une autre époque, on en achetait plus. Nos parents en achetaient plus. Mais c'est vrai que malheureusement, et pourtant, je sais qu'ils font des efforts, nos artisans. Je vois bien, je trouve que ça n'a pas tant augmenté que ça. Et puis, c'est vrai que ça a un autre goût, hein, quand même. Bon, les enfants, ils sont contents avec les petits œufs enrobés d'une magnifique couleur. Mais...
c'est important. Oui, c'est important pour notre artisanat et puis aussi pour la qualité de ce qu'on mange.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Astrid, et on vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. On va vous dire aussi un grand merci à Asna Ferreira d'avoir été en direct sur Europe 1. Désolée pour la liaison qui était un petit peu difficile.
Merci.
Je rappelle que vous êtes la fondatrice des boutiques Asna Chocolat Grand Cru.
Europe 1 Soir.
Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Très bonne soirée. Je vous laisse avec La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Ce soir, nous sommes à Villepinte au sein du Salon Global Industrie. C'est notre grande tournée avec les chambres de commerce et d'industrie. L'industrie, la réindustrialisation, enjeu majeur de notre pays. On va plus spécifiquement s'intéresser à la réindustrialisation aéronautique avec l'un des patrons de Dassault Systèmes. Vous allez voir, ça va être passionnant comme chaque soir, mais là, encore plus, j'en suis sûre. À tout à l'heure.